La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Alors Pierre-Yves, premier sujet ce matin, le courtage direct. Tu vas nous expliquer ce que c'est, mais qui pourrait devenir gratuit, ce qui montre une bagarre entre les différentes banques canadiennes.
Oui, en fait, le courtage direct, c'est quand vous décidez d'ouvrir un compte, transiger sur Internet et d'acheter vos actions, vos fonds négociés en bourse vous-même. Et depuis quelques mois, années, disons que c'est une tendance, les frais diminuent. Aux États-Unis, on parle des fois de courtage direct gratuit, mais il y a des frais cachés. Et mais là, la Banque nationale dit, nous là, on va être la première banque que le courtage direct va être gratuit. C'est-à-dire que vous allez acheter des fonds négociés en bourse, ça va être gratuit. Des actions, ça va être gratuit. Vous ne paierez plus 6-7 $ par transaction boursière ou un montant plus petit si vous avez beaucoup de transactions, mais vous ne le ferez plus.
Et là, ça veut dire... Mais là, d'après toi, est-ce que c'est vraiment zéro frais ou s'il y a quelques fling-fling?
Ben, aux États-Unis, il y a un certain fling-fling habituellement parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le payment for order flow. Donc, disons en français, le paiement pour le flux de commandes, c'est-à-dire... Tu as une application comme Robinhood, disons, qui a des milliers de clients, qui lorsqu'ils font les transactions, mais les transactions sont, ils passent par un grossiste, et là, il y a un frais de commission implicite dans la transaction. Il y a des frais de commission. Mais dans ce cas-ci, la Banque nationale dit non, nous, c'est une stratégie pour aller chercher des jeunes investisseurs. Et ça a de l'allure. Si tu es une personne qui décide d'utiliser le courtage direct à la Banque nationale, ça se peut que le jour où tu as un prêt hypothécaire, tu dis « je vais faire affaire avec la Banque nationale », ça se peut que tant qu'à avoir une institution avec laquelle tu fais tes transactions boursières, tu décides de mettre tes autres services-là. Alors...
C'est une stratégie d'épicerie. Là.
C'est une stratégie d'acquisition de clients.
Ouais, c'est ça. T'sais, je baisse le prix ou je fais pas d'argent avec tel service, mais je vais me reprendre ailleurs.
Exact. Et on dit aussi, évidemment, il y a quand même des sources implicites. Exemple, du revenu d'intérêt. Si j'ai un compte de courtage à la Banque nationale, puis j'ai, disons, 1000 $ dans mon compte et j'ai pas encore acheté d'action, la banque peut faire de l'intérêt sur ça. Autre point, si je veux acheter sur marge, disons que je veux acheter des actions d'une compagnie qui est vraiment en vogue parce que je suis allé sur Reddit puis j'ai vu un forum de discussion, puis là, je suis excité, je vais acheter 20 000 $ d'action, la banque peut me faire ce qu'on appelle une marge de crédit. Et donc, ils peuvent faire de l'argent avec ça. Il y a aussi les frais de transactionnel. Si j'ai un compte, disons, en dollars canadiens, et puis que j'achète des actions de Microsoft, mais avec un compte en canadien, il y aura un frais de conversion de devise. Et évidemment, tu as des frais administratifs annuels ou pour imprimer des relevés. Et on nous dit qu'annuel, c'est 100 $ mais il est bien écrit, si vous êtes un jeune investisseur de 30 ans et moins, que tes actifs dépassent 20 000 $ au 31 mai de l'année en cours, puis que tu fais au moins 5 transactions sur actions ou autres entre telle date et telle date, ben tu peux avoir gratuitement ces frais-là. Et donc, tu vois qu'on va attirer des jeunes, puis ça a du sens. Parce que les plus âgés, il y en a beaucoup qui font du courtage direct, mais disons que quand tu es rendu avec 500-600 000 d'actifs, tu veux moins gérer ça de façon individuelle en te disant « Bah, si je suis pas à 10 %, c'est 50 000 $ Tandis que quand un jeune qui a 3 000 $ d'épargne, lui, il se dit « Bah, je vais gérer ça moi-même jusqu'à temps que j'ai assez d'argent pour que ça vaille la peine. Puis si je suis pas à 10 % de 3 000, mais c'est tout de bien juste 300 $ Okay. Et donc, il y a ça. Mais disons que ça représente un plus grand pourcentage des investisseurs plus le temps avance. Parce que c'est à la mode. On dit aux gens, transigez vous-même, sauvez des frais, faites des acquisitions, faites des coûts d'argent. Parce qu'il faut dire que lorsque vous passez par un conseiller, un courtier, il va vous conseiller dans une stratégie globale selon votre profil d'investisseur. Donc, il ne fera pas la même chose qu'une personne ferait individuellement, c'est-à-dire mettre tous ses œufs dans le même panier sur certains titres. Et donc, c'est pour ça que le courtage direct est très en vogue. En plus, c'est comme un jeu vidéo. Hein? Tu vas sur ton application, tu achètes des titres, tu joues ton avenir et tout va bien.
Ben, pas tout le temps, par exemple.
Non.
OK. Est-ce que nous avons réduit nos dettes de consommation depuis le début de la pandémie?
C'est ce que disent les statistiques parce qu'évidemment, les dettes de consommation, donc hors, disons, hypothèque, ont baissé. Maintenant... Les hypothèques ont augmenté de 100 milliards au Canada. Alors, la question, c'est, même si tu baisses de façon significative de près de 21 milliards les dettes de consommation, il y a un transfert vers l'endettement hypothécaire. Bon, deux raisons là-dessus. La première, c'est toute l'aide gouvernementale et la réduction de dépenses. Donc, PCU, PCRE, subvention salariale, subvention des frais fixes, télétravail qui a coupé dans les dépenses. Ça explique une grande partie, disons, de la rationalisation des dépenses et du paiement de carte de crédit. Par exemple, si les Canadiens traînaient des 500$, des 1000$ sur leur carte, facile à rembourser quand tu changes de mode de vie soudainement. Mais, quand tu vas en succursale, puis que tes dettes sont plus élevées que ça, le conseiller, son premier réflexe, c'est de te dire, hey, t'as 5-6 000 en dette à 20%, je t'offre de refinancer ta maison et de prendre la plus-value et d'aller payer tes dettes. Et Paul, pendant la pandémie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au moment zéro, au temps zéro de la pandémie, la valeur des maisons s'est mise à augmenter parce que les gens se sont garochés dans on va investir là. Et donc, il y a plein de gens qui avaient déjà une maison, qui ont vu leur capacité d'emprunt augmenter et donc qui ont pu aller chercher des marges pour s'acheter une piscine, s'acheter un VTT, une nouvelle voiture, un chalet, peu importe, ou payer des dettes. Et donc, c'est un mélange des deux. Il y a un côté que si on a vraiment payé nos dettes, mais est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on a vraiment changé de mode de vie à long terme? On ne sait pas. Mais il y a un côté que c'est, ben, tant qu'à être capable de refinancer notre dette pour la hausse de la valeur des maisons, on va aller payer ça à 1% 2% au lieu de payer ça à 22 23%.
Merci Pierre-Yves, bonne journée. Salut.
C'est 23.